Salut mes petits adorateurs du Schmurf et tous les autres, bien sûr, soyez les bienvenus dans Carrément Rétro 2.0, le podcast rétro geek de Megaforce Magazine.
Rise from your grave.
Et aujourd'hui, c'est en compagnie de l'inénarrable Johan Sega et son émission Carrément Rétro que vous allez profiter de ce nouvel épisode. Bonne écoute tout le monde, et bien entendu, on se retrouve tout de suite après.
Aujourd'hui, dans votre émission Carrément Rétro, un jeu du jour consacré à un monument du jeu vidéo. Je parle bien entendu du jeu Shenmue, qui est un jeu vidéo d'aventure en monde ouvert développé par Sega avec sa branche arcade AM2 pour la version originale et D3T pour la version produite et réalisée par Yu Suzuki et édité par Sega. Yu Suzuki, co-créateur de Sonic. Il sort sur Dreamcast en 1999 au Japon, puis en novembre 2000 aux États-Unis, et enfin en décembre 2000 en Europe. Il s'agit du premier épisode de la série Shenmue. Il couvre le premier chapitre de la série qui se passe au Japon, à Yokosura. S'auto-caractérisant premier jeu du genre Free, pour Full Reactive Ace Enternement, il a incontestablement révolutionné l'industrie vidéoludique avec une dimension de liberté jusqu'alors jamais atteinte et une mise en scène d'un réalisme remarquable. Shenmue est constitué d'environnements 3D en mode ouvert entrecoupé de combats Free Fight et de Quick Time Event, abrégé QTE ou Action Contextuelle en français. Il comprend également des éléments de jeux de rôle, simulation de vie et de jeux de simulation sociale. L'environnement est travaillé avec un système de jour et de nuit, des effets météorologiques variables, des personnages non-joueurs avec leur propre vie et des éléments interactifs tels que des distributeurs de canettes, des salles d'arcade et des mini-jeux. L'histoire suit un adolescent, Ryo Azuki, élève en art martial, qui, après le meurtre de son père, a soif de vengeance dans cette ville japonaise des années 80. Yu Suzuki, après le développement de plusieurs jeux d'arcade de Sega à succès, y compris Anguan, Outrun et Virtua Fighter, a voulu créer une expérience de jeu unique. Son équipe a commencé à travailler sur un jeu de rôle pour la console Sega Saturn, basé sur l'univers de Virtua Fighter en 1997. Néanmoins, le développement est abandonné et poursuivi sur Dreamcast. Le jeu est alors nommé Shenmue et la connexion avec l'univers de Virtua Fighter est complètement abandonnée. Il est devenu le jeu vidéo le plus cher jamais développé lors de sa sortie, avec un coût de 47 millions de dollars, coût de développement et de commercialisation compris. Shenmue a reçu de nombreuses critiques positives, principalement pour ses graphismes, sa bande-son, son réalisme et ses ambitions. Il est aussi critiqué notamment du fait de son rythme qui est parfois lent. Il est devenu culte, apparaissant dans plusieurs classements, regroupant les meilleurs jeux vidéo de tous les temps et est cité comme étant le pionnier des genres modernes, principalement pour les QTE et son monde ouvert. Le jeu s'écoule à 1,2 million d'exemplaires, ce qui en fait un échec commercial vis-à-vis des ambitions du titre. La production de la Dreamcast ayant été arrêtée prématurément, le jeu n'a pas reçu le succès escompté et il est donc devenu assez rare par la suite. Ajouté à cela, Sega annule le développement de la série après la sortie de Shenmue 2. Il n'en faut pas plus pour que le jeu et la série Shenmue deviennent des icônes du jeu vidéo. En juillet 2015, Yu Suzuki et YSNet commencent à développer Shenmue 3 pour la PlayStation 4 et le PC après une campagne de financement participatif couronnée de succès. Le contexte historique de la sortie de Shenmue, c'est dès la fin des années 90, les sociétés qui dominent le marché des consoles de jeux se livrent une guerre sans merci. Chaque fois que Sony, Nintendo ou Sega frappent fort avec un jeu ou une console, ses deux concurrents répondent par un produit similaire, adapté à son propre savoir-faire. Ce phénomène s'étant considérablement amplifié depuis l'accession de Sony au premier plan. Ainsi, en 1997, lorsque le jeu Final Fantasy VII sort sur PlayStation, Nintendo a misé en 98 sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Chez Sega, c'est le passage réussi du fabuleux jeu Panzer Dragoon dans le camp des RPG avec Panzer Dragoon Saga qui a joué ce rôle. Mais l'échec de la Saturn a empêché ce titre de s'imposer sur le plan commercial. La Dreamcast ayant beaucoup mieux réussi son entrée sur le marché, Sega décide fin 99 de jouer son va-tout sur son développeur le plus prolifique et talentueux, Yu Suzuki. L'homme à l'origine des plus gros succès de l'éditeur en salle d'arcade depuis 1983, Afterburner, Outrun, Super Anguan, Space Harrier, Virtua Fighter, etc. Suzuki peut être l'homme de la situation avec l'aide d'un énorme budget de développement évalué d'abord à 70 millions de dollars, puis rétabli en 2011 à 47 millions. Une somme colossale pour l'époque. Son projet Shenmue se déroulera sur un minimum de 3 épisodes au sein desquels seraient répartis tous les chapitres du scénario, qui comprend une quantité de personnages et de situations sans précédent. Yu Suzuki a d'ailleurs imaginé le terme de Free, Full Reactive Ace Enternement, loisir pour les yeux entièrement réactif en français, pour définir le style auquel appartenait le jeu. Étant personnellement fan de cette série, on trouve les Shenmue à l'heure qu'il est sur Dreamcast dans les 150€ en état complet et mint. Et on attend avec impatience la suite des aventures de Ryo Hazuki. De l'émission Carrément Rétro au sein du salon de l'association Carrément Rétro, Johan Sega sur le 90.2 FM. Je reçois aujourd'hui, vous allez me dire, deux jolies filles. Je suis bien entouré, quelle chance. Alors comment vous appelez les filles?
Alors moi je m'appelle Aurélie.
Et moi c'est Maud.
Aurélie et Maud. Et alors donc Aurélie et Maud, si je viens vous voir, c'est bien une raison. C'est que vous exposez et vous vendez aussi, accessoirement, du pixel art. Expliquez-moi comment vous en êtes venu à cet art, parce que pour moi c'est un art.
Alors comment j'en suis venu, je sais pas. Je pense que je suis baladé sur internet un jour comme ça, en cherchant un peu sur Google, tapant un petit peu au hasard des trucs comme ça, et je commençais à avoir des créations comme ça. Je me suis dit, oh, tiens, c'est sympa, en plus c'est du rétro, les jeux vidéo, j'aime bien ça. C'est des petites perles, je me suis dit, bon bah je vais essayer. Donc je suis baladé, à l'époque j'étais du côté de Tours, donc j'étais dans un petit magasin d'art créatif sur Tours. Je trouve la boîte, je suis ah bah voilà, ça doit être ça là, perle à main, machin truc, parfait. Je me barre avec la boîte, je l'achète, je me barre. Je rentre chez moi, je commence à faire, je comprenais pas tout. Et après, j'ai fini par comprendre qu'il fallait une petite plaque en plus pour faire les pixel art. Et j'ai commencé à en faire, j'ai fait 2-3 persos comme ça, je fais ouais, c'est sympa, après on repasse et tout. Je montre ça à Maud là, je dis oh, regarde, petit cadeau à toi, je t'ai fait un petit truc sympa, un petit perso, je sais plus ce que c'était à l'époque en plus là, peut-être le Toad là qui fait comme ça. Enfin, c'est pas très radiophonique ça, mais.
Oui, ben on imagine parce qu'on connaît les personnages
de Mario Kart, quand il a gagné, il est content. Et elle fait ouais, c'est sympa et tout. Et du coup, bah, je pense que c'est dit, tiens, je vais y mettre aussi. Et bien, de fil en aiguille, comme ça, on s'y est mis, on a fait pour les copains, les copines, les amis. Et puis on s'est retrouvé avec plein de trucs à droite à gauche. Et puis on se dit, bah, on va peut-être essayer de les vendre. Puis on a fait un petit festival du côté de chez nous. Un petit festival qui s'appelle Manga sur Loire, un petit peu de pub. C'est le week-end prochain, le 10 novembre, à Mont-Louis sur Loire.
Eh ben écoute, la pub est entendue le 10 novembre. Alors sachant que notre émission n'est pas en direct, mais c'est pas grave, ils entendront parler.
Et
ils
connaîtront. Voilà, c'est vraiment un petit festival de comme ici en fait, petit festival familial, convivial, comme on les aime. Et on a fait un stand. On s'est dit bon voilà, on fait le stand. Si ça marche, on continue. Ça marche pas, on arrête. Coup de bol, ça a marché. Donc voilà, nous voilà aujourd'hui en 2018 au Mans. Ah, carrément rétro, et c'est carrément bien. Voilà, on est content d'être venu.
Eh ben écoute, les gens de l'association, je pense, te remercieront. Je vais passer plus vers toi, Maud, où tu vas m'expliquer ce qu'est réellement le pixel art. Parce que peut-être que nos auditeurs n'ont pas une idée précise du pixel art. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le pixel art, pour faire simple, c'est du loisir créatif qui peut se faire vraiment à tout le monde. Donc, c'est vraiment à tous les âges. À la base, c'est un peu du loisir créatif pour enfants. On part sur cette base-là. Donc, c'est des perles en plastique qui sont en forme cylindrique, qui existent en toutes les couleurs. L'idée, en fait, c'est de faire un croquis. Donc, tu fais ton dessin sur une plaque en plastique avec des petits picots dessus. Ensuite, tu vas sceller avec une feuille de papier sulfu. Tu retournes, tu scelles de l'autre côté et ça te fait un dessin. Après, tu peux le décliner sous plusieurs façons. Donc, le pixel art comme on connaît dans les magasins, donc à plat. On peut le faire en 3D, en porte-clés, en cadre. Et vous avez toute une continuité, voire à l'infini de combinaisons à prendre.
D'accord, oui, on part d'un produit brut, plastique en fait, la petite perle, hein, et puis on en vient avec un acte créatif à faire quelque chose de beau. Les filles, où est-ce qu'on peut vous joindre et surtout où est-ce qu'on peut voir vos créations pour ceux que ça intéresse de nos auditeurs?
Alors, vous pouvez nous trouver sur Facebook, vous cherchez Pixeland tout simplement, donc Pixeland c'est P-I-X-L-A-N-D, enfin, pour ça c'est quand même pas forcément simple à chercher. Donc on est sur Facebook, on est sur Instagram, on a une petite page sur un grand marché qui est une boutique en ligne, et puis on avait aussi un Tumblr, mais ça on n'y est plus trop, donc principalement Facebook et Instagram, on va dire, voilà.
D'accord, bah je te remercie. Moi j'avais encore une question, vraiment, qu'est-ce qui vous plaît le plus à créer? Parce que je vois que vous avez des personnages de manga, de jeux vidéo. Moi je vois, là devant moi j'ai un Sonic qui me fait un œil fou, je sais pas, je crois que celui-là il va repartir avec moi ce soir, je sais pas, on verra. c'est quoi vraiment pour vous, où vous le prenez le plus de plaisir en fait à faire? Quel est le personnage vraiment?
Moi ça serait vraiment celui que je préfère, ça serait le Evoli, et bah bien sûr toutes les évolutions. Après il y a plein de trucs que j'aime, forcément, enfin, que ce soit Raluman, on est vachement dans le rétro gaming, on est vachement vachement dans le manga. On est, enfin nous, ça nous parle. On a été gamine dedans, on a baigné dedans, bah, un peu comme toi d'ailleurs, hein, je suppose. Hein, voilà, et encore, je suppose. Quelle connerie de te dire ça.
Quelques personnes ici sont pareilles que nous, je pense. Quelques personnes, hein, voilà. Vaguement.
Si peu. Et en fait, après te dire que voilà, Evoli c'est mon préféré, c'est voilà comme ça, mais on va dire tous les thèmes on aime. Enfin, faire du rétro Mario, j'adore ça. Faire du Pokémon, c'est génial. Faire du Sonic, faire du Star Fox, enfin. Après, on fait ce qu'on aime. Vu qu'en si tu veux, on n'est pas obligé d'eux parce qu'on est une asso, on s'en fout un petit peu, tu vois. Enfin, on fait ce qu'on aime. Après, quand il y a des demandes, oui, on va essayer un petit peu de s'énerver dessus pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est, pourquoi. Parce que bon, après, j'ai envie de te dire, les enfants maintenant connaissent des trucs qu'on ne connaisse pas. Et ça fait chier quand même, on peut le dire.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de Dora, ouais. Il n'y a pas de Dora sur le stand, désolé, hein, pour les fans de Dora. Voilà. Il n'y a pas de Télétubbies non plus, il n'y a pas de je ne sais quel dessin animé récent pour enfants.
D'accord.
On est resté dans notre époque, mais on fait vraiment ce qu'on aime, enfin, on prend plaisir à le faire. Je pense que c'est vraiment ça l'important.
Et c'est important que vous le souligniez, les filles, on est dans un milieu de passionnés. Et comme dans tout milieu de passionnés, effectivement, il y a un acte marchand et c'est normal. Mais il y a surtout un milieu de passionnés. C'est-à-dire que quelqu'un comme moi, par exemple, vient vous voir, dit bah, « je veux tel tableau, vous allez me le faire ».
C'est ça, ah oui tout à fait, ouais. Y a pas de souci, on prend les commandes, etc. Et on va chercher des modèles, on va même les pixeliser s'ils n'existent pas, et on va essayer de faire plaisir aux gens en disant bah voilà, moi je veux tel perso, parce que les gens viennent en me disant si vous avez telle série, on peut pas tout faire. Évidemment on peut pas tout faire, mais voilà, on prend les commandes, il n'y a aucun souci.
Bien, bah écoutez, je vous remercie. On va se dire au revoir vraiment pour cette belle rencontre et à bientôt les filles.
À bientôt, merci beaucoup.
Ciao.
Et voilà, Carrément Rétro 2.0, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur votre agrégateur de podcast préféré. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça nous aide au référencement. En attendant, notre prochain rendez-vous, venez nous rendre visite sur notre site Megaforce Magazine ou sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez bien entendu les liens dans la description. Que la Megaforce soit avec vous, bisous sur le stick gauche et à très bientôt.